Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de deux musiciens, Nicolas Misen, bonjour.
Bonjour.
Et Mathis Calzetta, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler de trois soirées musicales que vous proposez cette semaine par l'orchestre de chambre de la Drôme. Et donc, il y aura une soirée en particulier pour le Diwa, ça sera le rêve et la danse, c'est ça, à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Et puis, on abordera les deux autres soirées avant. Nicolas Misen, je crois que tu es à l'initiative de cette organisation, l'orchestre de chambre de la Drôme.
Alors, en effet, à l'initiative n'est peut-être pas le bon mot. Je suis président en fait de l'association qui gère l'orchestre. Il a été créé il y a un peu plus d'un an, basé dans la ville de Romans, par une autre structure qui a fait le choix de transmettre le projet de l'orchestre à une structure dédiée que nous avons créée et remontée à Die. Et maintenant, l'orchestre a la chance d'être hébergé par la ville de Die. On est en résidence ici. Et c'est ici donc que nous accueillons les musiciens pour les répétitions et quelques concerts également dans l'année.
Là, actuellement, effectivement, vous êtes en répétition à la salle polyvalente. Comme ça, par curiosité, parfois il peut y avoir un accès public pour l'écoute, mais à cause des conditions sanitaires, ce n'est pas trop possible aujourd'hui.
Alors voilà, on relance nos activités culturelles de l'été avec une tournée drômoise dans le cadre des recommandations sanitaires du ministère de la Culture. Et on a dû changer de salle de répétition, en trouver une plus grande, qui est la salle polyvalente. On ne peut évidemment pas accueillir de public encore pour l'instant. Les répétitions se font avec des distanciations entre les musiciens, masqués, avec voilà, toutes ces recommandations-là. Mais les concerts seront bien organisé de ce point de vue-là, avec le port du masque quand c'est en intérieur. Et voilà, les festivals qui programment l'orchestre gèrent cette partie-là d'accès au public et la mise en œuvre des recommandations.
Ça doit être difficile d'interpréter avec un masque.
Alors c'est vrai que ça demande, je pense, une adaptation. Le plus difficile n'étant pas de jouer avec un masque, mais de jouer distancé. Parce que chaque musicien... d'habitude, on joue serré pour l'écoute, pour la cohésion. Et là, les musiciens sont obligés de faire un effort de cohésion puisqu'ils sont tous distancés à 1,50 m les uns des autres. Après, le masque fait que bah, forcément, il fait chaud, les musiciens ne sont pas forcément à l'aise. Puis peut-être ça change un petit peu l'écoute aussi, on ne sait pas exactement. Voilà. Mais finalement, au bout d'un moment, on l'oublie et puis on fait avec.
Voilà, ce qu'on remarque aussi dans notre expérience de la semaine dernière, du coup, c'est que les musiciens préfèrent jouer masqués mais proches pour avoir l'énergie collective, l'énergie du groupe, plutôt que non masqués mais éloignés les uns des autres.
Pour le spectacle de jeudi, vous êtes 11 à interpréter cette soirée. Mais l'orchestre de chambre de la Drôme, c'est combien de musiciens ?
Alors c'est un orchestre à géométrie variable, donc ça veut dire qu'on s'adapte à tous les répertoires qu'on aborde et en fonction des propositions que nous font les festivals qui nous programment. Là, cet été, avec le Covid, on a choisi d'organiser une session uniquement autour des instruments à cordes et une formation qui soit transportable dans différents lieux, souvent assez exigus. Donc là, c'est 11 musiciens cet été, plus chef et soliste pour certains concerts. Et après, en fonction des répertoires suivants que nous aborderons les années futures, on peut monter jusqu'à 30, je pense, un maximum pour un orchestre de chambre, en tout cas. Entre 10 et 30, voilà, on va dire.
L'orchestre de chambre de la Drôme, pour vous, a été, comment dire, une évidence à être créé, de manière justement à avoir un support pour des musiciens de musique dite classique.
Oui, c'était un petit peu une nécessité. Il a été créé par une autre asso qui avait cette volonté-là aussi de pouvoir proposer un projet professionnel à des musiciens qui soient jeunes, encore en études, en fin d'études, en fin de master dans les conservatoires nationaux français, et qui n'ont pas encore trouvé de poste fixe en orchestre national. Et finalement, entre le conservatoire et une carrière d'orchestre, il n'y a rien, il n'y a pas de pont. Et donc l'idée de créer un orchestre professionnel de jeunes, c'est bien de créer ce pont-là entre la fin des études et la carrière en orchestre. Parce qu'évidemment, ils font beaucoup d'orchestres dans les écoles, mais c'est dans un cadre scolaire. Là, c'est un projet professionnel, donc rémunéré, et qui propose des concerts dans des circonstances professionnelles dans la Drôme.
Cet orchestre de chambre de la Drôme a forcément eu quelques soutiens pour sa création et puis ça, en quelque sorte sa pérennité.
Bien sûr, nous avons c'est un mix privé-public avec des mécènes et des institutions. Comme je vous le disais, l'orchestre est hébergé par la ville de Die. Le Crédit Agricole nous soutient également d'un point de vue mécénat avec Groupama. Nous sommes soutenus par le département de la Drôme, par le Collège Contemporain et par le label PMAC.
Avant de continuer sur ces trois soirées, je reviens un petit peu sur le Covid. Comment avez-vous vécu cette période au niveau de votre profession ?
Ça a été très difficile, je pense, pour tous les musiciens. Bon, je peux pas parler au nom de tous les musiciens, mais en tout cas, me concernant, en tant que chef d'orchestre, bah, plus d'orchestre pendant un certain temps, donc plus de concerts. En tant que pianiste aussi, c'est aussi une partie de mon activité, plus de concerts non plus. Donc, tant sur le point de vue financier, il y a moins de rentrée d'argent et il faut quand même survivre à cet épisode, que sur le point de vue moral où bah, du coup on se demande à quoi on sert tout d'un coup, parce qu'il n'y a plus aucun concert, voilà. Mais je pense que bah, justement ces trois concerts sont vraiment une chance pour nous d'avoir pu les organiser, les maintenir. Je remercie Nicolas pour l'organisation dont il a dû faire preuve pour organiser ces concerts. Et ça va être de très beaux concerts parce que tous les musiciens n'ont jamais eu autant envie de jouer que maintenant. C'est leur premier concert depuis 4 mois, 5 mois. Et ça, on l'a bien vu il y a 2 semaines, ça a été vecteur d'une immense cohésion et de concerts juste magnifiques. Donc je m'attends à la même chose pour ces trois prochains concerts.
Voilà, et le fait de maintenir, en fait, est lié, je pense, à la jeunesse de notre structure. On a un an à peine, c'est notre 5e concert que nous allons donner dès demain. Et cette flexibilité nous permet d'avoir pu maintenir, je pense, qu'un gros festival qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, je pense au festival Berlioz, par exemple, à d'autres grands festivals en France, qui n'ont pas les capacités de s'adapter. À proposer des formes différentes, surtout voilà, à un mois de l'événement. Et nous, on avait cette capacité de nous remettre en question tout de suite, vu qu'on n'a pas d'expérience et qu'on peut s'adapter immédiatement aux enjeux.
Mathis Calzetta, qu'est-ce qui a éveillé en vous ce métier de chef d'orchestre ?
Alors, mon parcours est un peu particulier parce que j'ai commencé la musique sur le tard, comme on dirait, à 14 ans. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai été amené à faire de la musique, mais tout d'un coup, ça a été un déclic. Et en l'espace de 2 ans, 3 ans de pratique du piano, j'ai commencé par le piano, ça s'est révélé être pour moi une forme d'évidence. Après, j'ai eu des professeurs exceptionnels qui m'ont tout apporté dans mon apprentissage, même humainement, dans ma construction en tant que personne. Et tout de suite, la musique classique, oui, ça a été pour moi une manière de transmettre une énergie, une émotion, et quelque chose qui était déjà peut-être bouillonnant en moi et qui s'est exprimé à travers ça.
C'est donc au hasard d'une rencontre que c'est arrivé, cette passion, ou alors est-ce qu'il y avait des prémices avant du chef d'orchestre avec sa baguette, de diriger un orchestre, même virtuel ?
Non, vraiment, c'est au hasard des rencontres. J'ai commencé par faire une colonie musicale qui m'a tout de suite plu. Il y a une prof de piano qui m'a dit ce serait bien que tu essaies le piano. Voilà, j'ai commencé dans une école de musique. Ensuite, j'ai fait le conservatoire de Grenoble. Petit à petit, j'ai un peu grimpé les niveaux. Puis, je suis arrivé à l'école de musique de Genève, la haute école de musique, en piano et en direction d'orchestre. Et en fait, en faisant de la musique, moi, je me suis dit, le piano, c'est chouette, mais je suis un peu tout seul à jouer. Et j'avais envie de partager vraiment la musique avec les autres. Et en tant que musicien pianiste, j'avais pas accès forcément à l'orchestre. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de monter des ensembles. Et ça s'est passé comme ça, petit à petit, l'envie de jouer ensemble.
Qu'est-ce qu'amène un chef d'orchestre sur une œuvre ?
Alors, un chef d'orchestre, il a plusieurs rôles différents. L'essentiel, c'est toujours se poser la question à quoi on sert. Parce que des fois, il y a des pièces qui ne nécessitent pas forcément de la part du chef de diriger les musiciens, mais plutôt de leur donner une direction musicale, de leur donner une inspiration, une énergie. Il y a d'autres pièces, au contraire, où le chef d'orchestre doit être extrêmement clair pour aider les musiciens à se placer et à comprendre où ils doivent jouer, comment ils doivent jouer rythmiquement. Donc voilà, on a plein de rôles différents et l'essentiel, c'est de s'adapter, de savoir à quel moment on est nécessaire, à quel moment on doit donner une impulsion et laquelle, sous quelle forme. Et puis là, dans le cadre de ces concerts, j'ai avoir la chance d'accompagner deux solistes remarquables, que Grégoire Girard, violoniste, et Lucie Minaudier, chanteuse. Et là, c'est encore un autre rôle, c'est-à-dire c'est faire un peu le lien entre les solistes qui vont proposer un discours musical, une pièce qu'ils ont travaillée, qu'ils connaissent bien, et l'orchestre qui les accompagne. Et c'est de faire le relais, faire en sorte que les musiciens écoutent les solistes et les portent au mieux dans leur expression personnelle.
Nous abordons les trois soirées. Il y en avait une quatrième qui a eu lieu le 31 juillet, hein, c'est ça ?
Exactement, on a fait une extension à notre tournée dromoise qui avait lieu dans le Vaucluse le 31 juillet. Et là, on enchaîne avec trois concerts consécutifs dans la Drôme cette semaine.
Je vois ces lieux sur lesquels sont jouées ces œuvres. Il y a toujours cet aspect patrimoine et de représentation d'une espèce de culture ancienne, on peut dire.
Oui, en fait, ce sont souvent les festivals qui s'installent dans des lieux patrimoniaux remarquables, comme les châteaux de la Drôme, par exemple, avec une programmation du département, les églises et le monastère de Sainte-Croix qui a investi le lieu avec une vraie programmation et une volonté de diffusion artistique.
Serait-ce dire aussi que l'architecture d'aujourd'hui ne convient pas à certaines musiques ?
Ah, les philharmonies, tout à fait. Donc on va demander prochainement au département de la Drôme de faire construire une philharmonie pour l'orchestre de chambre de la Drôme, quelque part sur le territoire, peut-être dans le Vercors, je ne sais pas. Mais non, on est très heureux de jouer dans les églises et dans les magnifiques châteaux on a la chance d'avoir dans le département.
La première soirée qui aura lieu le 18 août, hein, c'est-à-dire demain soir, et ça sera où alors ?
Demain, nous commençons cette petite tournée drômoise avec un concert à l'église de Cré, mardi 18 août à 21h, dans le cadre du Festival de musique sacrée. C'est les 30 ans de ce festival absolument dingue, pérenne, d'une belle qualité à Cré. On assure la clôture de ces 30 années, puis on espère qu'ils vont continuer, évidemment, avec un programme que nous avons intitulé « Un tour d'Europe d'une seule et même voix », où nous allons accompagner la chanteuse Lucie Minaudier. Et Mathis peut-être nous dira un mot sur le contenu musical, le programme de cette soirée de demain.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un programme qui est avant tout un programme méditatif. On a essayé de trouver une belle variété de pièces différentes en passant par différents pays. Alors, il va y avoir du Mozart, il va y avoir du Part avec l'Estonie. On part de l'Ouest en Est, en passant par la France. Des mélodies françaises de Debussy qui ont été réorchestrées par moi-même pour cet ensemble-là. Donc voilà, toute une palette de compositeurs, d'ambiances différentes, mais toujours dans la méditation, dans la poésie, dans le sacré, dans le recueillement. Pour correspondre parfaitement au lieu dans lequel on va jouer, c'est-à-dire l'église. Et on a la chance d'être un orchestre à cordes, d'être à cheval entre la musique de chambre, la musique d'ensemble en petit effectif, et du coup de façonner un peu des programmes en faisant des arrangements, des transcriptions, en étant extrêmement modulable pour pouvoir être libre sur la programmation et choisir les plus belles pièces à offrir au public.
Vous avez cité quelques compositeurs, hein, Mozart, Part, c'est Arvo Part dont vous citez ?
Oui, exact, Arvo Part, compositeur estonien qui a écrit une musique extrêmement épurée, extrêmement dépouillée pour exprimer le recueillement, une forme d'ascèse, mais qui en même temps est extrêmement expressive, et on retrouve des silences dans sa musique qui sont chargés en émotions. Voilà.
Comme un écho.
Oui, oui, oui aussi, et puis c'est l'écho des grandes églises orthodoxes qu'il fréquente en Estonie, en fait. Elle est très imprégnée de cette spiritualité orthodoxe. Et signalons que l'orchestre donc donnera trois œuvres d'Arvo Pärt demain soir à Cré, ainsi qu'à Sainte-Croix, ensuite on va les reprendre. Et l'une des trois sera une création française, puisqu'elle n'a jamais été jouée en France depuis sa composition. Donc on est très heureux de contribuer à diffuser et à créer cette musique en France. Voilà.
Voilà, bah, j'avais envie de dire qu'il y avait un film qui m'avait marqué, c'est sa musique pour Let There Be Blood.
Ah oui, peut-être.
Si, il a composé pour cette... Il a repris d'ailleurs des morceaux qu'il avait déjà composés quelques années avant. Hein. Et donc Berlioz, Mozart, puis c'est quand même européen.
Oui, voilà, alors...
Et quel est le fil conducteur? C'est l'aspect religieux de cette musique qui est mise en avant?
Avec la vocalité, oui.
Oui, la vocalité, je dirais, parce que Lucie va intervenir à plusieurs moments dans la soirée. On a décidé de briser un peu le côté conventionnel de la partie avec la soliste, la partie avec l'orchestre, mais au contraire l'introduire au fur et à mesure du programme et qu'elle ponctue la soirée à différents moments. Donc le fil conducteur, voilà, c'est la voix et l'aspect effectivement sacré, méditatif des pièces. On va avoir, pour commencer, une introduction assez classique, j'ai envie de dire, du sacré avec Mozart, avec un air exultate jubilate, sacré extrait d'un texte latin. Et ensuite, on va passer par Puccini, qui est une autre forme de sacré de la musique. Alors, on est sur une musique qui sera plutôt dans la méditation, dans la poésie, dans le recueillement, tout ce genre de choses. Puis après, on va glisser vers la poésie avec Debussy, qui sont des mélodies pas du tout sacrées, mais empreintes d'un univers onirique, etc., qui permet de prolonger le rêve. Et puis, on va terminer la soirée avec Part, qui, lui, nous remet dans cette ambiance un peu du début mozartienne, avec le côté, justement, extrêmement sacré, extrêmement précis du texte, avec, on termine avec un magnifique Unservateur, notre Père, qui est aux cieux, la prière, voilà.
Qu'est-ce qui serait proposé comme extrait?
Alors, on vous propose d'écouter un extrait de Chrysanthémie de Puccini. C'est une pièce, justement, qui n'est pas vocale, qui est juste pour orchestre, mais qui a servi ensuite de base pour son opéra Manon Lescaut. Donc, on entend déjà le lyrisme, on entend déjà la voix qui chante le drame, parce que c'est un opéra qui, comme souvent chez Puccini, se termine pas très très bien. Et dans cette pièce, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement extrêmement triste, extrêmement intense, et en même temps extrêmement dans la mélancolie, voilà. Et dans la partie centrale, on aura quelque chose de plus contemplatif, un peu plus éthéré, mais toujours dans cette ambiance assez dramatique et qui donnera naissance à un opéra après.
Thank you.
Nous passons à la soirée du 19 août, et dans le cadre du festival Vallée du Rhône en musique. Et là, ça sera une soirée qui s'intitulera « Eh bien, dansons maintenant ».
Voilà, alors ce sera à Suze-Larousse, au château de Suze-Larousse, mercredi 19 août à 18h30 et 21h. Il y a deux séances, vous pouvez choisir laquelle des deux séances en réservant sur le site internet du festival. Et là, c'est un programme différent donc, de danse dans lequel nous accompagnons le directeur artistique du festival, Grégoire Girard, violoniste qui fait une magnifique carrière internationale à 23 ans maintenant. Et c'est un festival qui fait la jonction entre les amateurs de vin et de musique classique. Donc les deux concerts sont suivis par des dégustations organisées par les compagnons des Côtes-du-Rhône. Et Mathis va nous présenter le programme.
Alors pour le programme, celui-ci est très différent de celui qu'on joue la veille. C'est un programme de danse, donc on est plutôt dans la fête. On va être, on voulait quelque chose de pétillant pour accompagner le vin. Donc on va avoir des valses de Brahms, donc on est dans l'aspect viennois, pareil, qui sont des valses à la base pour piano à quatre mains que j'ai transcrit pour cet ensemble-là. Donc c'est une, si vous venez écouter le concert, ce sera quelque chose d'unique que normalement vous n'auriez pas écouté ailleurs. Voilà, on a des pièces en solo avec Grégoire Girard, Sarrazate. C'est des pièces très enjouées, très virtuoses, très brillantes. On peut écouter du beau violon magnifiquement joué par Grégoire. On a aussi Bartok, les danses roumaines. On va toute une panel de danses pour finalement reterminer par Brahms avec les danses hongroises de Brahms qui sont, vous les connaissez certainement peut-être d'oreille, qui sont des pièces extrêmement enjouées, extrêmement festives et en même temps aussi très chargées en émotions et qui clôtureront la soirée avec brio, on l'espère.
On peut peut-être présenter aussi le festival Vallée du Rhône en musique. Je le connais pas personnellement, mais c'est une structure qui existe depuis combien de temps ?
Alors non, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né du confinement, un survivant même du confinement, du Covid. Et c'est un projet qui a été monté en parallèle à l'OCD, en fait, par hasard. Nous montions un orchestre professionnel de jeunes dans la Drôme. Et juste à côté, dans le Vaucluse, un nouveau festival de musique classique se montait pour les jeunes interprètes. Donc la cohérence était parfaite, la convergence a été immédiate. Et donc c'est une collaboration entre nos deux structures pour monter ces concerts-là et ce tout nouveau festival qui va, j'espère, être pérenne entre vin et musique.
Le choix des morceaux de musique se rapportant donc à la danse et au vin également, il y a des morceaux justement qui ont été inspirés par le vin dans les compositeurs que vous proposez. Est-ce que c'est actif ou c'est du préfiguré ?
Alors ça, je connais pas assez la vie de chaque compositeur pour savoir s'ils sont amateurs de vin. J'imagine que oui, en tout cas pour Brahms, pour des compositeurs comme Bartok, oui, comme Sarrazate, on imagine bien que de toute façon les artistes et le vin, ça a toujours fait bon ménage d'une certaine manière. En tout cas, ça a certainement dû inspirer beaucoup de choses. Après, on a beaucoup de pièces de musique aussi qui font référence directement au vin, même des airs d'opéra, au champagne, voilà. Donc la musique et le vin ont toujours eu des liens assez étroits. Après, moi, je compare souvent la musique avec le vin aussi. C'est-à-dire que le vin, quand il fait référence au goût, quand le boit, on a une multitude de saveurs, une multitude d'arômes différents en fonction des cépages, en fonction des lieux, en fonction de chaque vin. Avec la musique, c'est un petit peu pareil. On va avoir le compositeur, la pièce et l'interprétation aussi qui vont changer les arômes, changer la perception qu'on a de la musique. Et puis, bon, finalement, on commence un petit peu... moi, quand j'ai commencé la musique... Voilà, ça n'a pas été tout de suite la révélation de toutes les pièces. C'est petit à petit, j'ai commencé à écouter du Mozart, petit à petit à écouter du Bartok, etc. Et puis petit à petit, je découvrais de nouvelles saveurs, de nouvelles choses. Et puis bon, finalement, après, on finit par s'enivrer de musique et ne plus pouvoir arrêter.
Oui, puis il y a un vocabulaire commun. Je crois qu'on parle d'attaque, on parle de couleur, il y a plein de terminologie qui est commune en fait entre le vin et la musique.
Et puis il y a la symbolique du vin dans ce côté religieux aussi.
Aussi.
Eh bien, dansons maintenant. Alors, qu'est-ce qui est proposé comme extrait ?
Alors, on vous propose d'écouter maintenant une danse hongroise de Brahms. Donc à la base, c'était écrit pour piano à quatre mains. Ça a été ensuite transcrit pour différents ensembles, notamment par Brahms pour orchestre seul. Et là, c'est une transcription maison pour ensemble à cordes et soliste. Donc vous allez entendre Grégoire Girard dans cette pièce. C'est une pièce extrêmement dansante. On est vraiment à Vienne avec le printemps et puis les oiseaux. Vous allez voir, c'est extrêmement dansant et très agréable à écouter.
Et puis là, on continue normalement. Donc pour la troisième soirée qui s'intitule Le rêve et la danse, et ça aura lieu donc à l'ancien monastère de Sainte-Croix ce jeudi 20 août à 20h30.
Tout à fait. Donc là, nous l'avons intitulé Le rêve et la danse puisque nous allons reprendre le répertoire de Cré et le répertoire de Suze Larousse, sans soliste cette fois-ci, avec uniquement l'orchestre. Avec un programme Mozart, Arvo Pärt, Brahms, Puccini et Bartok que va vous présenter Mathis.
Alors pour cette soirée, donc on l'a dit, c'est un peu une soirée, je dirais, un peu patchwork des concerts différents sans les solistes qui mettent en valeur du coup l'orchestre. Je pense que le titre résume assez bien l'intitulé de la soirée. On va être à la fois entre méditation, poésie et à la fois entre danse, enjouée pour faire un cocktail final pour cette tournée qui sera très, très heureux et très beau.
Voilà, c'est la conclusion de la tournée de Romoise en fait, qu'on donne en résumé à Sainte-Croix pour présenter notre travail de l'été.
Cette soirée de rêve et la danse, il n'y aura pas nécessité pour l'auditeur de pouvoir danser.
Ah, on peut le, bien sûr que si.
Ah oui, mais c'est bien de le dire.
ce sera bien.
Moi, je m'attendais à un concert où il y aurait le public assis sur des sièges.
Ah, ce sera probablement le cas avec des sièges espacés, Covid oblige. Oui. Mais on imagine aussi qu'il y aura un espace entre l'orchestre et le public pour pouvoir s'amuser un peu.
Voilà, ben, qu'on se le dise. Eh bien, justement proposer un avant-goût, quel serait l'extrait que vous proposerez là ?
Pour ce concert-là, on vous propose d'écouter les deux dernières danses roumaines de Bartok, qui sont des danses folkloriques, extraits de la musique populaire roumaine, donc d'où le titre danse roumaine. Et c'est des pièces extrêmement enjouées, extrêmement virtuoses pour les instrumentistes, et on se fait énormément plaisir à jouer et diriger ça. C'est une musique très, très heureuse. Et en général, ça plaît énormément au public parce que ça met beaucoup de joie dans le concert.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour votre actualité ? Quelles seraient les perspectives ensuite, après ces quatre soirées ?
Alors, après ces quatre soirées, nous allons donc fêter notre premier anniversaire. Ça fait un an que l'association a été fondée et on va ensemble définir les perspectives pour l'année prochaine, trouver de nouveaux partenariats pour nous implanter sur tous les territoires. Puisque c'est bien un projet d'itinérance, c'est un orchestre de chambre de la Drôme, mais pour la Drôme. Et on souhaite visiter tous les territoires, du Vercors au Baronnies, avec la Drôme des Collines et le Diois, Vallée du Rhône, etc. Donc on va développer nos partenariats avec des structures, des écoles, des programmateurs, des festivals, des salles de concert, et trouver un répertoire du coup qu'on va défendre, avec toujours ce souci de promouvoir les jeunes talents et les jeunes talents du territoire, puisqu'on est, on n'est pas nombreux, mais on existe quand même. Les jeunes Dromois à avoir percé et continué dans les études supérieures à l'international.
Ça représente à peu près combien de personnes ?
Alors ça dépend de la définition de la jeunesse. Mais sur la génération que nous représentons avec Mathis, entre les 20 et 30 ans, on est une petite quinzaine en fait, à avoir persisté et à développer une vraie carrière. Voilà. Et ça, c'est le projet de l'orchestre de les mettre en valeur, de les inclure dans l'orchestre, de les mettre devant l'orchestre en soliste. Et donc cette question de l'itinérance qui nous est chère, de pouvoir aller visiter le public au plus près de chez lui, souvent en dehors des plus grandes salles dédiées à la musique classique, puisqu'elles se trouvent souvent dans les grandes agglomérations. Et donc là, on l'amène avec l'itinérance en milieu rural.
Je suppose que pour les à côté, vous donnez quelques cours de musique à des musiciens en devenir ?
Alors, quand on est étudiant, je dirais c'est un peu comparable à quand on est interne en médecine. C'est-à-dire, on étudie, on continue d'apprendre, mais aussi on a des expériences, on va dire, du terrain. Et c'est à ça que sert l'orchestre aussi, même pour moi en tant que chef d'orchestre, de me faire mes premières armes en tant que chef d'orchestre, mes premières expériences avec un très bel ensemble déjà, donc j'en suis très content. Et du coup, on va expérimenter... en tant que soliste, en tant que musicien, en tant que chef, en tant qu'administrateur, président d'orchestre pour Nicolas, et aussi en tant que professeur. J'imagine que ça fait partie de l'activité de beaucoup de musiciens. Pour ma part, je donne quelques cours, effectivement. J'étudie à Genève, donc sur Genève. Pour Nicolas, je ne sais pas. Es-tu prof, Nicolas ?
Oui, je suis en train de le devenir. En tout cas, je m'oriente vers des études de pédagogie musicale actuellement. Donc pour apprendre à la transmission, en fait, développer cet aspect-là de notre carrière d'instrumentiste qui nous nourrit également. Quand on transmet, on apprend beaucoup sur soi-même. Et c'est actuellement ce que je développe d'un point de vue professionnel et ce qu'on développe avec l'orchestre aussi en mettant en œuvre des concerts pédagogiques et des projets voilà, d'accompagnement à l'écoute de certaines œuvres qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à écouter, moins classiques. Et c'est le projet qui nous tient à cœur pour l'an prochain aussi, c'est de défendre un répertoire qui est peut-être moins connu. Voilà.
Il y a une constance dans, justement, entre le transmetteur et l'apprenant au niveau des demandes, ou alors il y a aussi une augmentation de demandes pour apprendre cette musique de certains instruments.
Alors pour le piano, en tout cas en ce qui me concerne, il y a toujours une grande demande. Beaucoup de personnes ont envie d'apprendre le piano, envie d'apprendre à jouer cet instrument qui est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup donner des cours parce que j'ai vraiment l'impression de transmettre quelque chose qui a été appris depuis peut-être 200 ans, 300 ans, qui est transmis à l'oral, et je me sens un peu détenteur d'un savoir comme ça que j'ai envie de faire perdurer, qui est un savoir universel, parce que la musique a toujours existé, elle existera toujours, et voilà, d'aller chercher chez les élèves ce qu'ils ont de personnel, ce qu'ils ont au fond d'eux, qui peuvent dire par la musique, qu'on peut pas dire par des mots et que la musique permet d'exprimer, et de leur permettre, grâce à la technique, grâce à l'apprentissage de la musique, de s'exprimer par leurs instruments et par la musique que les compositeurs ont écrit.
Dernière question, est-ce que pour vous la musique est une nécessité ?
Pour ma part, la musique c'est un besoin qui est quasi vital. Après, ça m'est personnel, et bien sûr on peut vivre sans musique, on n'en a pas besoin pour que notre corps fonctionne d'une certaine manière, on n'en a pas besoin comme la nourriture ou l'air ou, voilà, ou l'eau, mais par contre je pense que notre cœur, notre âme, si je puis dire, a besoin de ça pour vivre. C'est ce qui nous nourrit, voilà. Alors la musique, l'art de manière générale, je veux pas dire que la musique est absolument essentielle. Je pense que l'art de manière générale, que ce soit la littérature, le théâtre, la peinture, la danse, voilà, toute forme d'art est importante, et interagissent les uns avec les autres et se nourrissent mutuellement.
Nicolas Misaine, on va se quitter. Peut-être indiquer aux auditeurs, est-ce que vous avez un site internet pour connaître un peu votre activité ?
Alors, dans l'attente d'avoir un site internet, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'Orchestre de Chambre de la Drôme, et plus précisément pour les concerts, vous rendre sur les sites des festivals, Festival de Musique Sacrée, Festival Vallée du Rhône en Musique et Ancien Monastère de Sainte-Croix, pour pouvoir réserver vos places et ainsi être sûr d'assister au concert avec les restrictions de public. On n'est jamais certain, donc réservez vite en avance. Je sais que le monastère propose également un repas pour le public à 19h pour ceux qui le souhaitent, précédant le concert. Voilà.
Mathis Calzetta et Nicolas Misaine, je vous remercie tous les deux d'être venus à Erdivois pour nous présenter cette soirée et ces soirées musicales, et notamment celle de Sainte-Croix pour ce jeudi 20.
Merci pour votre accueil et votre soutien. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.